Nous allons ouvrir le Saint-Livre, mes frères et sœurs. Nous allons faire trois lectures. La première dans Jacques, s'il vous plaît. Dans l'épître de Jacques, le Seigneur nous demande de savoir quelque chose encore. Jacques, chapitre 5, versets 19 et 20. Combien je nous exhorte à écouter vraiment. Vu ce qui s'est passé dans mon cœur hier, je pense que Dieu veut interpeller plusieurs parmi nous. Plusieurs. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous avez vu les deux premiers mots, les trois premiers mots du verset 20, qu'il sache. Il y a des choses, mes frères et sœurs, il faut les savoir vraiment. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, nous allons lire deux versets qui vont vous encourager à peut-être prier différemment, qui vont nous encourager à chercher vraiment quelle est sa volonté. Est-ce que nous sommes tous convaincu de la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. C'est de très beaux versets. Dans l'Ancien Testament, je voudrais que nous puissions lire dans le prophète Ézéchiel au chapitre 37, texte qui nous a été lu la semaine dernière. Je voudrais que vous lisiez avec moi l'expérience que Dieu a voulu faire à ce serviteur qui ne savait pas cinq minutes avant ce qui allait lui arriver. Je ne sais pas si vous êtes soucieux, vraiment soucieux, sérieux, de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Est-ce que c'est quelque... Parce que là, on en parle bien sûr, chaque dimanche, on parle de la volonté de Dieu. Mais soyons honnêtes. Comme nous le rappelait Jeanson, Dieu a une vision planétaire de son Église, mais Dieu a une vision individuelle de son Église. Et je te pose la question, est-ce que vraiment ce matin, tu voudrais que Dieu te parle? Est-ce que vraiment tu es capable de dire, en sachant les conséquences bénies, même si on ne les comprend pas sur le moment, Seigneur, que ta volonté soit faite? Ça peut changer plein de choses. Dès la fin de ce culte, ou lorsque vous vous lèverez pour prendre la Sainte Cène. Il y a des moments dans la vie où on est prêt, il y a des moments où on n'est pas prêt, il y a des moments où on ne sait même pas où on en est. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des moments où on ne sait même pas où on en est. Moi j'aime ce texte, je crois que c'est dans le psaume 142, où Dieu dit, « Toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. » Heureusement que Dieu sait où nous en sommes. Il le sait. Il y a des choses avec lesquelles Dieu est d'accord, et il y a des choses avec lesquelles Dieu n'est pas d'accord. Ces choses-là, il faut les savoir. Alors lisons cette histoire, vraiment lisons-la. Je sais que vous la connaissez, peut-être même par cœur, mais ça fait rien. Lisons-la vraiment avec le cœur. N'oublions pas que la parole de Dieu est puissante pour nous parler. Ézéchiel 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'âne d'esprit. Il me dit, « Prophétise !» Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, il reprit vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. » Permettez-moi de relire ces trois mots. Le soupir du Seigneur. Ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Nous ne soupçonnons pas tous les combats qu'il y a. Pourquoi ? Parce que les combats se produisent dans l'invisible. Nous, nous sommes accaparés par ce que l'on voit. Ben, c'est normal. Mais je crois vraiment que si nous cherchons la volonté de Dieu d'une manière vraie, je ne sais pas comment vous écoutez les dons spirituels, comment vous avez écouté les questions, peut-être que vous vous en rappelez, peut-être plus. Des questions qui ont été posées, peut-être à plusieurs parmi nous. Que fais-tu? Que regardes-tu? Qu'écoutes-tu? Que fais-tu de la prière? Oui, je prends trois, quatre questions qui ont été posées. Moi, je crois que c'est Dieu qui les pose. Avec nos faibles, peut-être, capacités, mais c'est quand même Dieu qui utilise des hommes. Et vous voyez dans ce texte, une fois de plus, que Dieu, pour faire ce qu'il a à faire, utilise toujours des hommes. Toujours. C'est rare quand il est décrit, Dieu ne trouva personne, alors son bras lui vient en aide. On voit quand même que dans certains cas, Dieu fait certaines choses alors qu'il n'a personne. Mais, de tout temps dans la Bible, lorsque Dieu veut faire quelque chose, il l'utilise. Un homme, une femme, une église, son corps qui est l'église. Ne n'allez pas me dire que Dieu ne pouvait pas faire ce qu'il s'est passé tout seul. Il a pris Ézéchiel pour lui montrer quelque chose avec laquelle il n'est pas d'accord. Je sais que nous sommes là dans la grâce. Nous sommes heureux de nous retrouver. Est-ce que c'est un bonheur la communion? Est-ce que vous êtes heureux de voir vos frères et sœurs? Ouais. C'est un grand bienfait la communion fraternelle. C'est un grand bienfait d'être un chrétien équilibré. Voyez, je pourrais prendre des versets sur l'esprit justement, comme Marie qui disait « Mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur ». Donc, nous pourrions tout articuler sur le fait que notre esprit doit se réjouir en Dieu. Et c'est vrai. Mais si nous sommes équilibrés, nous allons comprendre qu'il n'y a pas que ce verset-là, il y a d'autres versets où Dieu dit que ce qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un côté, il y a la joie du salut, c'est ce que je vous explique en vous disant qu'il y a la communion fraternelle et les conséquences du salut. Et d'un autre, il y a quelque chose qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, c'est-à-dire un esprit qui réagit lorsque ça ne va pas. Lorsqu'il a péché, lorsqu'il s'est loupé, etc. Ça plaît à Dieu quand quelqu'un a un esprit brisé. Parce que quelqu'un qui a un esprit brisé, c'est quelqu'un qui effectivement se remet en question. Donc on peut se réjouir parce que notre esprit est en Dieu, et en même temps on peut avoir l'esprit brisé parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et Dieu, au travers de sa parole, au travers de son esprit, nous montre ce avec quoi il n'est pas d'accord. Nous quand quelque chose ne nous convient pas, ben basta, on passe à autre chose. Comme disent les gens, un de perdu, dix de retrouvé, c'est des choses qui sont rentrées dans l'Église, ça. Mais ça n'est pas rentré dans le cœur de Dieu. Dieu, dans sa bonté, dans son amour, qu'on a si bien exprimé au travers des cantiques, veut nous ouvrir les yeux. Ézéchiel, il ne savait pas cette affaire. 5 minutes avant que cette histoire ne se passe, il ne savait pas que cette vallée existait. Même pas, il savait. Mais il était prêt. Est-ce que mon frère, vous savez, ce sont des questions peut-être que je répète souvent, mais quand même. Est-ce que tu es prêt à obéir? Parce que vous avez remarqué comment Ézéchiel réagit à ce que Dieu lui dit. C'est lui qui réagit, ce n'est pas Dieu qui le lui dit. Vous avez remarqué comment il dit au verset 7? Je ne sais pas comment vous considérez la parole. Mais regardez Ézéchiel, je prophétisais, comment il dit? Selon l'ordre que j'avais reçu. Au verset 10, c'est la même réaction. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Tiens donc, est-ce que vous considérez la parole de Dieu comme une exhortation facultative, comme un sermon agréable, etc. Des choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Mais est-ce que vous seriez capable ce matin de dire « Oui, je vais considérer l'exhortation comme un ordre. » Les ordres de Dieu, ce sont des bénédictions. Jonathan l'a rappelé dans le psaume 119, si tu l'as rappelé. Hein. Les ordonnances réjouissent mon âme. Hein. La loi restaure mon âme. Et ce matin, vraiment, moi, je suis travaillé. Parce que je sais que le cœur de Dieu est affligé. Vous savez, lorsque Dieu a dû envoyer le déluge sur la terre, il le fallait, je ne vais pas l'expliquer, il le fallait, si vous le comprenez bien, que tout ce que Dieu fait est parfait. Il est dit que Dieu fut affligé. Mes frères et sœurs, quand Dieu voit aujourd'hui, je ne parle pas des pécheurs. Quand Dieu regarde aujourd'hui l'Église, l'Église, ce n'est pas que l'Église Sainte-Anne, c'est l'Église entière sur la terre, moi je vous le dis, son cœur est affligé. Vraiment affligé. J'ai regardé dans le dictionnaire hier parce que je ne veux pas me tromper. Tous les synonymes du mot affligé, mais je vous assure que c'est lourd, en peine. C'est une profonde douleur l'affliction. Et c'est vrai que je ne veux pas que nous perdions de vue cette joie de l'esprit. Mais quand Dieu n'est pas d'accord avec quelque chose, il nous le montre. Pour que nous reparticipions de nouveau à la nature divine et que nous écoutions les questions. Vous avez entendu, mais qu'as-tu fait de la prière? Lorsqu'un chrétien ne prie pas, il pénalise son frère, il pénalise l'œuvre de Dieu, il pénalise le retour des fils prodigues. Lorsqu'un chrétien ne prie pas, les autres vont le faire à sa place. Pourquoi il y a tant de... Moi, je le dis avec peine, vraiment. Quand je vois tous les collègues qui arrêtent le ministère. Moi, je bénis Dieu parce que je suis dans ce cas de figure où vous êtes avec moi, vous me portez, vous m'aimez, et je me sens aimé, et je peux en dire, et c'est vrai. Je me sens aimé, je me sens porté. J'ai tout le temps vu, à part deux ou trois qui m'ont cassé les pieds des fois, mais dans l'ensemble, ou un peu plus, mais dans l'ensemble, j'ai tout le temps vu des frères qui m'ont porté, et ça me touche le cœur. Mais tous les pasteurs ne sont pas à la même enseigne, croyez-moi. Et quand Dieu pose une question par le moyen qu'il voudra, vous savez, il y a des questions dans la Bible, ça fait, les jeunes ils diraient, ça fait flipper. Vous savez, quand Paul rappelle l'expérience qu'il a faite à un roi, il rappelle ce qu'Ananias va lui dire. On va le lire. Je voudrais que cette question interpelle plusieurs ce matin. Gardez la page d'Ézéchiel. Alors c'est dans Actes, c'est à la fin, c'est Actes 22. Regardez 22. Mais franchement, frères et sœurs, regardez, Saul de Tarse va faire une expérience bouleversante, et trois jours après, Dieu envoie un certain Ananias dont on n'entendra plus parler, mais c'était ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et regardez ce qu'Ananias va lui dire, trois jours seulement après cette expérience, cette rencontre merveilleuse, Actes 22. Regardez verset 14, verset 13. Regardez bien, frères et sœurs. Ils me disent, donc c'est Ananias, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Non mais franchement, ça fait combien ? Trois jours. Cette question hier vraiment s'est imposée à mon cœur. Je suis sûr qu'elle est pour quelqu'un. Et ça fait peut-être pas trois jours, ça fait peut-être trois mois, ça fait peut-être trois ans, ça fait peut-être 20 ans. Est-ce que tu acceptes ? Mais vraiment, c'est archi sérieux. Est-ce que tu acceptes de la même manière qu'Ézéchiel a accepté de faire cette expérience? C'était archi douloureux. Une armée, un peuple, un cimetière ouvert qui était certainement le résultat d'une guerre perdue, comme le rappelait Francis Nauvert la semaine dernière. Que de guerres perdues. Que d'églises, d'assemblées ont fermé, perdues, de pasteurs qu'on a perdus. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose. Je ne sais pas ce que ça vous ferait si vous appreniez que je chute, que je me suis éloigné de Dieu. Pourquoi tardes-tu ? Lève-toi ! Mon frère, ma sœur, sérieusement, je ne sais pas si vous avez prié ce matin avant de venir ou si comme plusieurs, vous vous êtes levé à la bourre pour venir dans sa maison, je ne sais rien. Franchement, je ne voudrais pas que vous pensiez un instant que je voudrais attrister quelqu'un. Mais il y a des moments dans la vie où je le sens, je le sais. Le Saint-Esprit veut que nous réagissions. Vous rendez compte, pourquoi tardes-tu ? Trois jours. Je bénis Dieu pour sa patience infinie. Qui ne nous écrasera pas. Même si nous sommes obligés de voir que la vallée... Que nos églises, je ne parle pas de Sainte-Agne, je sais quand même que dans l'église, il y a plein de gens qui vont bien, je le sais, gloire à Dieu. Mais c'est pas, il n'y a pas que Sainte-Agne. Et peut-être certains d'entre vous, vous n'êtes vraiment pas bien. Est-ce que vous acceptez que Dieu te dise, mais que regardes-tu ? Qu'écoutes-tu ? Est-ce que vous acceptez ces questions qui sont d'une simplicité ? Pourquoi tardes-tu ? Je sais pas, moi j'aurais été seul, peut-être j'aurais dit à Ananias, je dis, attends, mais ça fait que trois jours. J'y vois rien, j'ouvre à peine les yeux. Et c'est des questions, elles ne sont pas mises par hasard, par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu, elle est puissante. Je ne sais pas si on comprend que la parole de Dieu, elle est puissante. D'ailleurs, cette expérience d'Ézéchiel nous montre la puissance de Dieu lorsqu'un homme obéit. Lorsqu'un homme commence à dire, oui, je suis prêt à ce que tu m'amènes dans un champ, dans un nouveau terrain que je ne connais pas. Est-ce que tu es prêt à dire, oui, je suis, tu me demandes de me consacrer un peu plus, oui, je suis prêt. Il faut que ça vienne du cœur. Combien de fois Jésus a-t-il forcé quelqu'un dans les évangiles? Combien de fois vous voyez Jésus obliger quelqu'un? Jamais. Même quand il prophétise que la porte un jour va fermer, il ne dit pas, je vais vous forcer, c'est urgent. Il dit non, efforcez-vous. Il faut que ça vienne du cœur. Lorsque nos prières indiquent, en disent long sur notre état d'esprit, Jésus, Dieu justement dans ce texte au verset 11, indique l'état d'esprit du peuple. On le lit, on relit s'il vous plaît le verset 11. Fils de l'homme, ses os, c'est la maison d'Israël. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pour le peuple d'Israël. C'est vrai, Ézéchiel, c'est un livre pour les Juifs. Ça c'est clair et certain. Ça prophétise le retour d'Israël qui était mort et qui s'est reconstitué depuis le 14 mai 48. Mais il n'empêche que tous ces textes, on peut les appliquer à l'Église. Et la prière qu'ils font a du vrai et a du faux. C'est la maison d'Israël. Voici, ils disent, ils prient, je ne sais pas, enfin ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent? Nos eaux sont desséchées. Est-ce que c'était vrai? Ben oui, vu le contexte, c'était sûr qu'ils étaient desséchés. Notre espérance est détruite. Est-ce que c'était vrai? Oui, c'était vrai. C'était vrai dans le sens où quand on en arrive à cette mort, c'est que notre espérance a été détruite. Et nous sommes perdus. Par contre, ça c'est faux. Ça c'est faux. Quand on est le peuple de Dieu, on n'est jamais perdu. On peut toujours voir la gloire du Seigneur. Donc il y a un tiers de la prière qui est faux. Et ça aussi, ça devrait nous faire réfléchir. Comment je prie? Oui, le corps de Christ est desséché, l'apostasie est rentrée dans l'Église. Le pasteur, dimanche, quand on mangeait ensemble, me posait des questions par rapport à ce qui se passe dans le corps de Christ en général, dans les mouvements, dans les rassemblements. Et je lui ai dit ce que je devais lui dire. On ne fabrique pas des disciples, on fabrique des rétrogrades dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Peut-être que pour certains, ça fait un peu chaud, mais c'est la vérité. On n'amène pas les gens à devenir des vrais disciples, on amène les gens à une ambiance, ils vont dans des endroits qui sont exactement comme le monde. Et Dieu n'est pas d'accord avec l'Église qui se dessèche, l'Église qui meurt, ou l'Église qui est tiède. Quand Dieu n'est pas d'accord, il l'indique avec sa délicatesse, avec sa pédagogie. C'est extraordinaire comment Dieu s'y prend pour amener son serviteur et nous autres à faire une expérience que nous pourrions revivre nous aussi en disant oui, notre espérance tient donc, mais un chrétien qui n'a plus d'espérance, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que dit la Bible? Que quand on était sans Dieu, on était sans espérance, que celui qui n'a plus d'espérance, c'est le plus malheureux des hommes. Les rétrogrades, vous pouvez être sûr que les rétrogrades, ce sont des gens qui n'ont pas réglé cette affaire. Et si vous voulez savoir quels seront les rétrogrades demain, ce sont les gens qui n'ont plus d'espérance aujourd'hui. Et le diable, il sait comment faire pour dessécher quelqu'un, pour dessécher une église, pour empêcher une église d'avoir cette prière fervente. C'est pour ça que j'ai lu dans l'épître de Jean que nous avons auprès de lui cette assurance. Il y a des gens qui prient, mais ils ne savent pas si Dieu les entend. Ils ont un problème à régler, un problème d'obstacle à la prière. Ça, c'est un autre sujet que je n'inclurai pas dans cette prédication. Mais il faudrait que plusieurs d'entre nous nous posions la question, est-ce qu'il n'y a pas dans ma vie des choses qui font obstacle à la prière? Parce qu'avant d'en arriver là, il faut quand même aussi être prêt à dire, mais ça fait obstacle. Oui, je regarde des choses qui m'éloignent de Dieu. J'écoute de la musique. Est-ce qu'il y a de la musique qui peut nous éloigner de Dieu? Écoutez, si vous en doutez. Est-ce qu'il y a des choses que je peux regarder à la télé qui peuvent m'éloigner de Dieu? Mais c'est même pas la peine d'en parler. Avant de ce que Dieu se révèle, vraiment d'une manière merveilleuse, parce que moi franchement, je suis touché par la façon dont Dieu s'y prend. Et comment il fait participer Ézéchiel? Et comment il voudrait, mon frère, que tu participes à la nature divine? Tu n'as pas envie, quand tu te passeras devant Dieu, que Dieu te dise, « Ah, mon fils, tu as participé à la nature divine. Tu as été de ceux qui ont construit l'Église. » Vous avez envie que Dieu vous dise, « Mais tu as travaillé toute ta vie avec du foin, du chaume, de la paille. Tu es sauvé, bon, c'est déjà pas mal. Mais tu es sauvé, mais tu n'as aucune récompense. La prière, c'était un fardeau pour toi. » Alors que la prière, je sais que la prière c'est un combat, mais est-ce que c'est pas aussi quand même un moment de rafraîchissement dans la présence de notre Seigneur? Je sais que c'est compliqué tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais quand même, est-ce que j'ai attristé Dieu? Est-ce que j'ai éteint l'esprit? Est-ce que le Seigneur est à la porte, comme dans, de mon cœur, comme dans l'église de Laodicée, où Jésus, on voit le Seigneur qui est attristé, on pourrait dire, j'allais dire, qui pleure. Mais oui. Est-ce qu'on voit Jésus pleurer plusieurs fois dans les évangiles? Oui, il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il n'a pas pleuré parce qu'il allait ressusciter Lazare. Il aurait dû sauter de joie, excusez-moi l'expression. Il aurait dû s'enthousiasmer. Il savait ce qu'il allait faire, un des plus grands miracles. Il n'a pas pleuré parce que Lazare allait ressusciter. Il a pleuré parce que c'est évident. Il a pleuré devant la mort. Tous les gens qui sont morts. Et Dieu n'est pas d'accord, je le répète, mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Dieu n'est pas d'accord avec une église qui désobéit. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il aurait pu pleurer sur lui. Est-ce qu'il aurait pu pleurer sur lui? D'ailleurs, quand les femmes pleuraient, vous savez qu'elles l'ont vu en train de porter la croix, ça devait être quelque chose d'insoutenable. Ça devait être, moi, c'est des choses auxquelles je pense tout le temps. Jésus portant sa croix, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est affreux. Ça aurait été un homme, d'accord, mais c'était le Fils de Dieu. Et là, les femmes, elles sont en train de pleurer, et Jésus a dit, mais ne pleurez pas sur moi. Et quand il va arriver devant Jérusalem, il va pleurer devant Jérusalem, parce qu'elles n'ont pas connu ce jour où il aurait pu être visité cette ville. Quand Dieu n'est pas d'accord, il le dit mieux que moi. Moi, je l'exprime avec mon ministère. J'espère que je le fais bien. Vraiment. Je sais que le Seigneur n'est pas d'accord. Dieu veut des églises vivantes. Dieu veut des églises où tous ses enfants, nous soyons remplis du Saint-Esprit, baptisés tout à nouveau de l'Esprit, que rien ne l'attriste. Des églises où, quelle que soit la mort, parce que quand même, bon, Lazare, il était très mort, Lazare. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Cette vallée, c'est extraordinaire. Nous, on aurait dit, mais bon, il faut couvrir tout ça et c'est fini. Oui ou non? Nous, on aurait dit, attendez, mais faites sérieusement, je ne veux pas faire de l'humour pour cette prédication. Nous, on aurait dit, écoutez, faites venir des fossoyeurs, faites venir des tractopelles, je ne sais pas, recouvrez-moi tout ça, s'il vous plaît. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu lui dit, écoutez, ces eaux, il pose la question. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que l'Église, en France, à Toulouse, est-ce que l'Église peut revivre? Mais c'est pour moi qui la pose. Hein. Est-ce que l'Église peut revivre? Moi, je crois que oui. S'il trouve des gens qui vont commencer à considérer la parole, non pas comme des ordonnances difficiles, mais comme des ordonnances bénies. Tes ordres réjouissent mon cœur. Si vous pouvez dire ça ce matin, je peux vous dire que vous êtes heureux. C'est sûr que cette exhortation devrait modifier notre façon de prier. Changer notre façon de prier pour que l'on sache ce que Dieu veut. Je disais ce que Dieu n'est pas d'accord, parce que des fois on fait des prières. Ne me faites pas de reproches à la sortie par rapport à ça. Mais avouez que parfois, nous avons prié pour prier. Oui ou non? Parfois nous avons prié par habitude, le premier. Parfois nous avons, j'allais pas dire réciter des prières, mais ça ne s'en faut pas beaucoup pour qu'on récite des prières. oui ou non. Ne nous traumatisons pas. N'en prenez pas ombrage, réfléchissons. Franchement, je serais très triste ce soir si le Saint-Esprit me montrait que j'ai été maladroit dans cette prédication. Vraiment, je serais vexé. Mais une chose est certaine, on peut se poser la question et dire, mais tu m'amènes là, tu me fais voir qu'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Moi quand je vous assure, quand je vois l'état des églises, je sais que Dieu n'est pas d'accord. Mais je sais aussi que Dieu est tout puissant. Et que sa parole, elle est puissante. Alors bon, s'il y a des obstacles, demandez au Seigneur, demandez-lui. Il n'est pas possible qu'il ne vous le montre pas. Ça peut être de la jalousie, ça peut être de la haine, ça peut être des dettes. On en a parlé dernièrement. Des gens qui ne sont pas sérieux avec l'argent, des gens qui volent Dieu. Demandez à Dieu, il vous le montrera. En tous les cas, cette affaire, elle est là pour nous montrer quoi? Que Dieu, au-delà du constat, Dieu a un plan. Que son nom soit béni. Dieu a un plan, Dieu a un projet. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je suis archi sérieux. Est-ce que vous êtes prêts à accepter les questions que Dieu veut vous poser? Ou est-ce que ça vous est égal? Est-ce que vous accepteriez, comme je vous ai dit, Saul, Ananias à Saul, pourquoi tardes-tu? Moi, franchement, je me connais. Au début de ma conversion, j'aurais dit à Ananias, mais tu plaisantes? Je dois mûrir. Je sais que je me connais. J'aurais dit, mais non, mais moi, j'attends. Mais quand c'est une question que Dieu pose, ça vaut quand même la peine de se taire. Quand tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Le sacrifice des insensés, pour ceux qui l'ignorent, ce sont les gens qui servent Dieu et qui n'obéissent pas. Je peux prêcher, c'est pas pour ça que j'obéis à Dieu, vous le comprenez bien. Mais pourquoi t'es-tu arrêté de me servir? On l'a entendu dans le don, pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait de la prière qui fait mouvoir mon bras? Mais parce que peut-être t'es désespéré. J'ai vite passé sur le désespoir, mais ça vaudrait la peine de s'y arrêter un moment. Le temps me manquera ce matin. Ça vaudrait peut-être la peine que nous nous interrogions, mais je suis désespéré. Si l'espoir me manque, je vais rétrograder, ne vous inquiétez pas. Pourquoi tu t'es arrêté de servir? Eh bien, honnêtement, tu veux que je te dise pourquoi je me suis arrêté de te servir, Seigneur? Mais parce que j'ai été déçu. Une chrétienne me disait cette semaine, j'ai été déçu, pas ici, mais c'est pas grave, j'ai été déçu par tous les chrétiens. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est dommage d'en arriver là, mais ça ressemble un petit peu à ce cimetière. J'ai dit, je vous comprends, mais ce n'est pas une raison pour ne pas servir Dieu. Le Seigneur n'a pas dit, tu me serviras ou tu m'adoreras si tout se passe bien dans l'assemblée où je t'ai placé. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Point. Alors c'est vrai qu'on peut trouver des explications. Il y a des gens qui vous diront, ouais, mais je te comprends, etc. etc. Pourquoi travailles-tu avec de la paille? Pourquoi tu fais les choses n'importe comment? Pourquoi tu enfouis le talent que Dieu t'avait donné? Je t'en aurais donné deux autres, te dit le Seigneur. Et tu aurais été utile à ces gens qui t'ont déçu, etc. Enfin, on n'en finirait pas. Je ne sais pas la question que Dieu pourrait te poser. Mais s'il le fait, il le fera avec amour. Moi, je peux être maladroit, je le répète. Est-ce que ce matin, nous allons prendre la Sainte-Cène? J'espère qu'on va le faire avec beaucoup de cœur. C'est un moment béni, la Sainte-Cène. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit de dire, ben, Seigneur, tu me montres que tu n'es pas d'accord avec l'état de l'Église aujourd'hui en France? Tu me montres également que tu as un plan, un projet, que tu as le pouvoir de changer un cimetière complet à une armée complète? C'est merveilleux. Vous le croyez? Oui. Alors commençons justement à être sérieux et ne pas être habile au mal. Vous savez, moi ça m'est arrivé de prêcher, il y a des gens qui m'ont dit « Oh mais monsieur Gou, vous savez votre parole, c'est la parole d'un homme ». Et j'ai dit « Peut-être, je ne suis pas sûr d'avoir toutes mes prédications inspirées, ça je suis sûr ». Mais quand même, en arriver à désobéir à Dieu en prétextant que le pasteur n'a jamais la pensée de Dieu, moi je trouve que c'est un peu dangereux cette affaire. Et si ce matin je l'avais la pensée de Dieu, pour que nous puissions dire « Mais Seigneur, je suis d'accord, je vais changer ma façon de prier ». Quand j'entrerai dans la maison de Dieu, je veux absolument réaliser chaque fois que tu es au milieu de nous. Tu es dans l'esprit de chacun, de ceux qui t'ont accepté. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais vous ne croyez pas que dans les églises, vu le bazar qu'il y a, je pense qu'il y a une belle lurette, qu'on ne réalise plus que le Seigneur est avec nous lorsque deux ou trois de ses enfants sont assemblés en son nom. Vu comment les gens se comportent, laissez-moi vous dire que c'est tout indiqué. Même si j'ai tendance à juger parfois, là, je sais que c'est vrai. Est-ce que je veux vraiment savoir? Écoutez-moi, frères et sœurs, je vous le redis. Je me répète, mais c'est volontaire. Est-ce que vraiment tu veux savoir quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que pour toi, quel que soit ton âge, que tu aies 3 jours de conversion, comme un certain Saul de Tarse, que tu aies 80 ans, comme Moïse, qui a commencé son ministère alors qu'il était âgé, que tu sois comme Samuel, que tu sois qu'un enfant dans la foi, mais que tu aies déjà cette profondeur d'esprit pour comprendre que peut-être tu es le seul, Samuel, il était le seul. Les pasteurs qui voyaient, c'était des pervers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est écrit comme ça. Des voleurs. Et lui, il était tout petit, et il a décidé d'obéir à Dieu. Il n'y avait que lui, sa maman, apparemment il y avait un autre prophète, mais ils n'avaient pas l'air nombreux. Je pense que le cimetière, il était un peu dans le même état. Alors qu'est-ce que je veux faire ce matin? Est-ce que je suis capable, pendant que le pain et le vin vont circuler dans les allées, de dire « Seigneur, moi, il est hors de question que je sorte de ce lieu de culte sans reprendre la foi, l'espérance et l'amour qui sont nécessaires pour faire ce que tu veux que je fasse ?» Si Ézéchiel a fait cette expérience, c'est qu'il était prêt. D'ailleurs, son comportement face au conseil prophétise, c'est-à-dire prophétise, ça veut dire « Tu répètes ce que je dis ». C'est ça, prophétise, il répète ce que Dieu lui dit. Je veux dire, c'était pas compliqué. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il lui dit? Prophétise, dis-leur, ossements desséchés. Vous ne croyez pas que Dieu aurait pu le faire? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? La vraie prière, elle correspond toujours à la volonté de Dieu. Et il faut savoir si ce que je demande correspond à la volonté de Dieu. Vous avez un enfant qui est inconverti? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vos enfants se convertissent? Est-ce qu'il y a des promesses dans la Bible qui indiqueraient que Dieu veut sauver nos enfants? Est-ce qu'il y en a? Bien sûr. Donc, quand vous priez, Seigneur, sauve mon fils, il y a des gens qui prient, sauve mon fils, si c'est magique, est-ce que Dieu était d'accord, Seigneur? Il n'y a aucune assurance. Vous rappelez les textes d'introduction? Nous avons cette assurance. Qu'est-ce que nous demandons quelque chose de sa volonté? Il nous écoute. Il y a des gens, ils sont, quand ils prient, on a l'impression qu'ils sont contre Dieu, que Dieu est contre eux. Mes frères et sœurs, quand vous demandez à Dieu des choses qui sont dans sa volonté, le Seigneur, il est avec vous. Est-ce que vous comprenez? Quand vous priez, Seigneur, envoie ton esprit sur l'Église. Est-ce qu'il y a des paroles, des promesses dans la Bible qui indiquent que Dieu veut que l'Église soit remplie du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y en a des versets qui l'indiquent? Donc, quand vous dites au Seigneur, remplis l'Église du Saint-Esprit, que tous les chrétiens soient baptisés du Saint-Esprit, que tous les chrétiens soient immergés de la vie de l'Esprit, que toutes ces prières qui monteront vers toi et ton approbation. Non, Dieu ne veut pas que l'Église soit desséchée. Dieu veut que tous les chrétiens de l'Église soient des soldats, revêtus de toutes les armes, debout, prêts, fonctionnant comme Dieu veut qu'ils fonctionnent, chacun comme Dieu vous le demandera, que vous fassiez ce que Dieu vous demande, ça sera de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Si Dieu te demande de visiter une mamie par semaine, si c'est la seule chose qu'il te demande, fais-le, mais fais-le bien. Si Dieu te demande de visiter, si Dieu te demande de prêcher, si Dieu te demande de t'occuper des enfants, fais-le et fais-le avec cœur. Ne dis pas, ces gosses, ils m'énervent. Mais c'est votre école aussi, parce qu'il n'y a pas que vous qui enseignez les enfants. En même temps, Dieu est en train de vous enseigner. C'est bien. La patience, oui, comme certains le disent. Ézéchiel, il a prié deux fois, une fois pour les eaux, une deuxième fois pour que le Saint-Esprit agisse. Quelles sont les prières que vous faites en ce moment, sérieusement? Pourquoi vous priez? Est-ce que vous priez? Écoutez bien, frère. Est-ce que c'est important pour vous que l'Église soit victorieuse? Ou est-ce que vous en fichez? Si quelqu'un est malade ce matin, est-ce que ça peut arriver que quelqu'un soit malade? Je ne parle pas que physique. Moi, j'ai été malade plusieurs fois spirituellement, ça ne se voit pas. On a la faculté de le cacher, et je le cachais, ce n'était pas ici, mais je l'ai caché. Je l'ai mal vécu, mais ça m'a permis de comprendre que on peut cacher les choses et pas forcément être un hypocrite, mais que la douleur, ça nous pousse parfois à dire « je préfère me taire ». C'est pas de l'hypocrisie, ça je le sais. Mais s'il y a des paroles, est-ce qu'il y a des paroles dans le Saint-Livre puissant qui indiquent que Jésus, ce matin, peut guérir quelqu'un? Est-ce qu'il y a des promesses dans la Bible qui nous prouvent que Jésus, il aime guérir? Guérir émotionnellement. Vous savez, aujourd'hui, on parle de guérison émotionnelle, de guérison psychique, de guérison intellectuelle, de la guérison... Mais tout ça, ça tient debout. Les maladies psychosomatiques, c'est pas inventé. Est-ce que ce matin, le Seigneur Jésus, s'il a la liberté de se mouvoir au milieu de nous, est-ce que le Saint-Esprit qui donne la vie aux morts, est-ce que le Saint-Esprit peut guérir un chrétien ce matin, physiquement? Est-ce qu'il y a une promesse dans la Bible où Dieu parle de guérison? S'il n'y en a pas, ne demandez pas. Ce n'est pas la peine. Mais moi, je crois que des promesses sur la guérison physique, il y en a quelques-unes. On l'a entendu quand le chant a été présenté. Le chant, je ne sais plus. Oui, le chant. Tout est accompli. Trois mots. Du Dieu du ciel sur la croix en train de dire ses trois dernières paroles en tant que fils de l'homme. C'est ses trois derniers mots. Sur la terre, le Seigneur, en tant qu'en chair et en os, tout est accompli. Est-ce que ça vous fait du bien? Moi, oui. Avoir une parole de Dieu, c'est pour ça qu'il faut le faire avec ferveur. Lorsqu'Élie, je termine, parce que j'ai plusieurs choses à cœur, mais je voudrais qu'on ait du temps peut-être pour prier pour quelqu'un qui n'est pas bien. Je voudrais terminer avec deux pensées. La première, c'est la pensée d'Élie. Élie était un homme comme nous. Il nous est dit qu'il a prié. Il a prié, il a fait pleuvoir sur la surface du sol. 3 ans et demi de famine de sécheresse. Il a prié jusqu'à ce qu'il y ait un petit nuage. Il a prié 7 fois, qui est le chiffre, bien sûr, du perfectionnement. Ça veut dire prier jusqu'à ce que je sois. Mais il ne l'a pas inventé. Il n'a pas dit, bon, ça suffit. Non, le matin même, Dieu lui avait dit, je ferai pleuvoir sur la surface du sol. Il avait la promesse. Il ne l'a pas fait parce qu'il fallait que... Non, il l'a fait parce que Dieu lui avait dit. Mais bien sûr, si Dieu ne peut pas nous parler, il va, c'est sûr que nos prières vont être froides, stérile, inutile. Mais si nous savons ce que Dieu veut, si nous savons ce avec quoi Dieu n'est pas d'accord, si nous savons ce que Dieu, la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite, beaucoup de gens ils prient ça, mais en fin de compte ils pensent surtout à leur truc à eux. Seigneur, ta volonté, oui, Jésus va revenir. Oui, la moitié de l'église ne sera pas prête, c'est écrit. Il a prié. Il savait ce que Dieu voulait. Est-ce que mon frère, tu sais que Dieu veut que l'Église, ça soit une armée? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le... Je ne sais pas, moi je sais que certains chrétiens, il y a des chrétiens qui ne sont pas convertis. Alors c'est clair qu'ils ne comprennent rien. Il y a des pasteurs qui ne sont pas convertis. Oui, monsieur, monsieur Gou, il y a des... écoutez-moi, il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des chrétiens, peut-être même au milieu de nous, je pense qu'il y en a, qui ne sont pas nés de nouveau. Alors c'est clair que ça va être difficile. Mais pour les chrétiens qui sont vraiment nés de nouveau, ça devrait quand même nous faire réfléchir. Oui, Dieu promet la pluie. Est-ce qu'il y a des promesses dans les derniers jours? Dans les derniers jours, mais dans les derniers jours, il y a plein de textes dans les derniers jours où ça va aller mal. Mais il y a aussi des textes, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Qu'est-ce que vous voyez? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles? Ou dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit? C'est quoi que vous voyez le plus? Les deux. Il y a des temps difficiles, c'est pas grave. L'Esprit de Dieu veut se répandre. Et nous devons tout faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit. On a vite fait d'attrister le Saint-Esprit dans une église. Il y a des gens qui sont tout le temps négatifs. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de critiquer. Moi, franchement, je m'en fais un devoir de les dénoncer. Dans le royaume de Dieu, on participe à la nature divine. On a à cœur les âmes perdues, on a à cœur les rétrogrades. Si on a besoin d'une église plus grande, comme c'est en train de se présenter, ça se fera pas. On a à cœur l'œuvre de Dieu, oui ou non? On a à cœur le salut des âmes, on a à cœur les perdus, les rétrogrades, les accueillir. Si vous n'avez pas à cœur ces choses, mes frères, je vous plains. Rien n'est impossible à Dieu, c'est ça que nous dit ce texte. Quand vous priez, je termine, vraiment. Paul dit, quand vous priez, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Vous savez, quand on prie avec assurance, on peut le remercier. Ce n'est pas la méthode Coué. Merci pour le salut de mon fils, merci pour le salut de mon fils, merci pour le salut de mon fils. Tu sauves mon fils, Seigneur. Vous savez, cette espèce de mantra là, que font les bouddhistes. Mes frères et sœurs, si vous priez avec assurance, vous pouvez prier avec action de grâce. Tu sauveras mes enfants, Seigneur. Mais moi, je ne veux pas ressembler à un squelette. Je veux que tu travailles ma vie, Seigneur. Je veux savoir ce que tu veux que je sache. Vous avez lu, si quelqu'un ramène une âme, qu'il sache, si quelqu'un s'occupe d'un rétrograde, qu'il sache qu'il sauvera une âme de la mort et qu'il couvrira une multitude de péchés. Il faut savoir certaines choses. Ézéchiel était prêt. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt à entendre toutes les questions que Dieu a à te dire? Peut-être il en a une, peut-être il en a 10, peut-être il en a 20, je ne sais rien. Mais toi, tu devrais peut-être... Seigneur, mais toutes les questions que tu as à me poser, déjà celles que j'ai entendues ce matin, eh bien, je les note. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je tarde? Pourquoi t'as arrêté la prière? Rien que ça, vous pouvez les noter. Et dire, Seigneur, est-ce que c'est pour moi? Ne, soyons simples, comme des enfants. Est-ce que ces 5 questions, elles sont pour moi? Est-ce que je suis prêt à faire une nouvelle expérience? Ou est-ce que je suis prêt à rester dans la tiédeur? Mais si vous voulez rester dans la tiédeur, restez dans la tiédeur. Que celui qui se souille, se souille. Si vous aimez la souillure, ben, faites comme vous voulez. Mais s'il y a des chrétiens, vraiment des chrétiens, dans cette église, ici, je parle aux chrétiens, pas aux croyants. Croyant qui croit un jour et qui ne croit pas le lendemain. Je parle aux chrétiens, aux disciples, à ces gens qui ont donné vraiment leur cœur à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire ce matin, mais moi je contribuerai à la nature divine. Avec mes faibles moyens, mais je contribuerai. Je refuse de ressembler à un squelette. Je veux faire partie de ces gens qui seront remplis du Saint-Esprit. Prophétise et dit à l'esprit de l'homme, parce qu'il y a un petit E. Esprit, E majuscule, Saint-Esprit, viens. Alors on va se recueillir. J'aimerais qu'on réponde à cette prédication, que vous le fassiez d'une manière archi-sérieuse. Surtout les disciples, si vous n'êtes pas baptisés, si vous êtes des chrétiens de nom, tout ça, écoutez, faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes des vrais disciples, pourquoi tardes-tu? Je m'adresse aux chrétiens de l'Église. À ceux, à celles qui pourraient être comme Ézéchiel, à ceux qui pourraient être comme Élie, puisqu'il était comme nous. Seigneur, quelle est la prière que tu veux que je fasse? avec ferveur, parce que des fois on prie 30 secondes et puis on passe. Mais je veux prier, je vais prier avec cœur. On m'entendra ou on m'entendra pas, c'est pas grave. Mais je prierai avec cœur pour le salut de mes parents. Mon parent, ce sont des impies. Je prierai pour mes parents parce que tu veux les sauver. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut ressusciter un Lazare. Il peut ressusciter une armée desséchée. Que son nom soit béni. Je m'adresse aux chrétiens, aux disciples. Nous qui nous sommes peut-être fait piéger ces derniers mois parce que si, parce que là, c'est pas grave. Est-ce que tu veux te lever, mon frère, à ta place? Ma sœur, qui a pris le baptême devant Dieu un jour et qui dit, c'est vrai, je vais, mes prières toutes faites, on envoie ça à balader. Je vais refaire des prières avec le cœur. Lève-toi, mon frère, lève-toi pour prendre le pain et le vin avec beaucoup de reconnaissance. Peut-être avec de la repentance. S'il la faut, c'est bien. Mais surtout avec beaucoup d'actions de grâce. Parce que Dieu nous rappelle que quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut que nous on le sache. Que son nom soit béni. Vraiment, prenez le pain, l'évêque, avec beaucoup de sérieux et beaucoup de joie. Vous entendez? Ne vous lamentez pas. Si vous devez pleurer, la Bible dit « Heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. » Je ne sais pas comment Ézéchiel s'est couché ce soir-là, mais il avait appris quelque chose. Je ne sais pas comment nous nous coucherons ce soir, si on se couchera brumé par le monde qui nous aura nourris, ou on se couchera rassasié des mets succulents et gras. Merci Seigneur pour ces moments. Fais ton œuvre pendant ce moment de Sainte-Cène, Seigneur Jésus. Amen.